Cours de métaphysique par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 27 novembre 2001.
Il y a deux questions qu'on commence tout à voir. Vous avez dit que l'autonomie et la dépendance peuvent se comprendre dans la lumière de l'acte et de la puissance. Plus je suis en acte, plus je suis autonome. Bon, je crois que ça, c'est compréhensible. Alors, l'autonomie vient de la finalité. Quelqu'un qui est très finalisé est très autonome. Quelqu'un qui est très peu finalisé est dépendant de tout le contexte. C'est comme ça dans notre vie. Même ici, en groupe, quelqu'un qui est finalisé dans la communauté, il marche, il sait où il va. Quelqu'un qui n'est pas finalisé, il regarde à droite, qu'est-ce que font les autres. Ah, ils font ça, bon, on va peut-être faire ça. Alors, on est relatif. Et, alors, on ne doit pas l'être trop, mais on doit l'être quand même. Une personne, c'est quelqu'un qui est finalisé. Alors, vous avez montré aussi que l'autonomie provient de la substance, c'est sûr. Fondamentalement, il provient de la substance. Une vache n'a pas d'autonomie. Elle est dépendante de la nature vache. C'est-à-dire qu'elle broute, qu'elle donne du lait, qu'elle donne du beurre. Elle n'a pas d'autonomie. Elle est parfaitement déterminée. Et donc, l'autonomie fondamentale vient de la substance, de notre âme. L'autonomie fondamentale. Mais ça, je le pose. Je n'ai pas l'expérience de ça. Mais quand je manque d'autonomie, faites un petit examen de conscience. Il y a des points où vous avez une certaine autonomie, d'autres secteurs où vous l'avez beaucoup moins. Quand vous dépendez, quand vous commencez à faire de la philosophie ou de la théologie, vous n'êtes pas autonome du tout, vous êtes en dépendance du professeur. Et puis, progressivement, vous acquérez la chose. Et à ce moment-là, vous avez une certaine autonomie et vous pouvez même arriver à corriger le professeur. Vous voyez, la première correction que vous faites à un professeur, ça vient de quoi? Ça vient de votre autonomie de pensée. Parce que vous avez déjà une certaine connaissance. Alors vous dites, ah, c'est pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous n'avez rien comme connaissance, vous commencez à faire de la théologie. Que le professeur vous dit, ça vous étonne? Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? J'en sais rien puisque je suis incompétent. Alors j'accepte ce qu'on me dit. Mais, chose très simple, pour les élections, vous devez voter. Vous ne faites pas de politique ici, du moins je crois. Vous n'en faites pas. Alors, il faut bien pour les élections savoir. Alors on demande à quelqu'un de compétent de venir faire une conférence sur la mentalité de ceux qui se présentent et on choisira en fonction de ça. Mais tant que vous ne saviez pas ça, oui, alors la connaissance d'un domaine vous rend indépendant, augmente votre autonomie. Vous serez beaucoup plus autonome quand vous avez une connaissance philosophique profonde, une connaissance théologique profonde, mais je vous donne une très grande autonomie. Et vous pouvez dire, ah, un tel, il se trompe. Tant que vous ne savez pas, que vous n'avez pas de connaissance, mais vous pouvez suivre quelqu'un, parce qu'il a l'air d'être très compétent. Il a l'air d'être très compétent. Vous ne pouvez pas juger, vous ne savez rien. Alors, il a l'air d'être très compétent, je le suis. Donc, vous êtes dépendant. Il faut accepter la dépendance pour grandir. Mais une fois qu'on a la dépendance, on essaie. Et la personne exige une certaine autonomie. Quelqu'un qui serait complètement dépendant du groupe dans lequel il est, mais il n'a pas grande personnalité. En tant qu'il est dépendant, en tant qu'étudiant, vous n'avez pas une grande personnalité pour vos études. Il faut bien le reconnaître. Mais ça pousse. Quand vous êtes en quatrième année, ah, ça va. Alors, quelle différence de perspective ? Bon, la perspective, la substance est fondamentale. L'acte, ah, c'est déjà, ça se manifeste dans les opérations. Et donc, vous pouvez déjà avoir conscience de votre autonomie. Tandis que vous n'avez pas conscience de votre autonomie par rapport à votre âme. Mais si vous n'aviez pas d'âme, vous n'auriez pas d'autonomie. Alors, est-ce l'être et la vie ? Oui, c'est les deux. Ah, c'est justement ce que je voulais vous montrer. Je vous ai dit, en commençant la personne, qu'on est au niveau non pas des principes, mais du pos, c'est-à-dire du comment. Et ça, c'est capital. Il y a deux orientations de connaissance. Le ti esti est qu'est-ce ? Le ti esti en grec, hein, c'est du grec, ti esti. Est-ce ? Qu'est-ce ? Et le comment ? Mais cette distinction-là, Auguste Comte, qui est moins vieux qu'Aristote, Auguste Comte, puisque vous avez à Paris une église Auguste Comte. Elle est toujours fermée, vous ne pouvez pas entrer. Je choisis. Chaque fois que je passe devant, j'essaie d'entrer, ça m'intéresserait, voir qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils fichent dans une église Auguste Comte. Auguste Comte dit, le pourquoi, on ne peut jamais le savoir. Regardons le comment. Et c'est très important, ça, Auguste Comte. C'est le positiviste. Hein. Auguste Comte, c'est le père du positivisme. Alors, le positivisme ne s'intéresse qu'au comment. La psychologie ne s'intéresse qu'au comment. Ne s'intéresse pas au pourquoi. Aristote avait dit, et puisque Aristote c'est le grand-père, et on y revient tout le temps, Aristote avait dit, il y a deux interrogations, l'interrogation du comment et l'interrogation du pourquoi. Auguste Comte reprend ça à sa manière, dit l'interrogation du pourquoi, oh, c'est les enfants ça. Il n'y a pas de solution. La métaphysique, pas de solution. On est toujours dans le tremblement métaphysique, on ne sait pas. Donc supprimons ça et ne voyons plus que le comment. Et alors la psychologie moderne, mais oui, elle a progressé à cause de ça. Vous ne cherchez pas le pourquoi. Le psy... Le, le psychanalyste, le psychologue, il peut être chrétien, il n'est pas chrétien. Vous savez pas. Si vous aviez connaissance du pourquoi, vous verrez tout de suite s'il est chrétien. Pourquoi agissez-vous comme ça, vous ? Parce que vous vous êtes donné au Seigneur. Dans votre vie, il y a des quantités d'activités qui ne s'expliquent que comme ça. Et puis, il y a les activités du comment. Après, le comment, il y a un règlement de vie. Le règlement de vie, c'est le comment. Il y a un règlement de vie, vous levez à telle heure. C'est pas le pourquoi, ça. Vous pouvez être très bien sain en vous levant une heure après. Dans la vie, il faut arriver à discerner très profondément en nous les questions du pourquoi et les questions du comment. Ça, c'est une clé. Il ne faut pas rester simplement à la question. Il faut savoir... Cette question, est-ce qu'elle touche le comment ou est-ce qu'elle touche le pourquoi ? Ça vous donnera beaucoup plus de lucidité sur vous-même. Et comprendre que Aristote montre les deux questions. La scolastique ne cherche plus jamais le comment. Auguste Comte dit « le pourquoi, ça ne signifie rien, c'est contre la scolastique qu'il dit ça. Il faut uniquement le comment. » La scolastique, ne voyant plus le comment, a donné cette réaction violente du positiviste. Un historien peut très bien devenir un positiviste. Quand il érige... son histoire comme sagesse. Il n'y a plus de principe, il y a des faits. Et le fait est un principe. Or, le fait n'est jamais un principe. Il peut m'éclairer, il m'éclaire pour mon comment, mais pas mon pourquoi. Donc, il faut arriver à discerner les deux. C'est très important, autrement, alors, on suivra n'importe comment. Votre formation philosophique doit vous permettre de distinguer les pourquoi et les comment dans votre vie. Le petit examen de conscience de la fin de journée au point de vue philosophique, c'est très important. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité ? Et pourquoi vous les avez fait ? Ah, je ne sais pas. Bon, c'est le troupeau de moutons. On l'a fait devant moi, il y en a eu un qui l'a fait, moi j'ai suivi. Est-ce que c'est humain ça ? Non. C'est tout simplement être mené le troupeau de moutons. Alors de temps en temps, le troupeau de moutons, il y a un bélier qui n'est pas très content, hein, qui donne un coup de corne. C'est idiot de faire ça, mauvais chemin. Mais il fait ça par réaction. Il ne fait pas ça du tout en disant on ne voit plus le pourquoi, on ne cherche plus le pourquoi. Mais c'est très très important parce que il faut savoir qu'Auguste Comte, c'est pas loin de nous, Auguste Comte, hein. C'est pas loin de nous. Et Auguste Comte a marqué très fortement. La pédagogie. On s'est intéressé beaucoup à la pédagogie depuis Auguste Comte. Le comment. Et on ne voit plus que cela. Auguste Comte a renvoyé promener le pourquoi. Donc il a supprimé la métaphysique. Il a supprimé la philosophie. Et il a regardé seulement la pédagogie, le comment. La psychologie, le comment. Et on a supprimé le pourquoi. Ça, il faut le sentir intellectuellement. et le vivre intellectuellement. Or, le passage de la recherche de la substance, la recherche de l'acte et la recherche de la personne. Bon. L'acte et la substance, c'est le pourquoi. La personne, c'est le comment. C'est le comment suprême. Le comment le plus intelligent. Et je ne peux connaître ce comment que grâce aux recherches du pourquoi. Et dans mon comment humain, dans mon comment personnel, cet acte est bien personnel. Faites à la fin de la journée ce petit examen philosophique. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ma journée d'activité qui a été vraiment personnelle ? Et qu'est-ce qui, dans ma journée, a été, au contraire, mouton de panurge ? J'ai suivi les autres. J'ai vu tel frère en réaction. Pourquoi ? Comment ? Oui, il faut vous habituer à ça. Parce que ça, c'est la philosophie qui pénètre en vous, qui vous permet d'être un homme conscient de ce que vous faites. Autrement, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Et vous verrez que votre journée, il y a toute une série d'activités qui s'expliquent par le comment, et toute une série d'activités, quelquefois très peu, le pourquoi. Pourquoi levez-vous à telle heure ? Oh, je ne sais pas pourquoi. Quand vous allez manger à l'heure, dites pourquoi ? Et comment le faites-vous ? Ah, je suis parce qu'il sonne la cloche. Ah bon. Donc vous obéissez à la cloche. C'est votre comment ? D'une manière. La cloche, c'est la voix de Dieu qui passe par la cloche. N'est-ce pas ? Dieu est très loin, mais ça ne fait rien, c'est la voix de Dieu. Alors, j'obéis. Or, la recherche de la personne, c'est le comment. Oui. Le suprême comment. Et c'est pour ça que la scolastique n'a jamais cherché la personne. Jamais. Parce que ce n'est pas un principe. Le principe, c'est la substance et l'acte. Alors voilà les deux perspectives. J'espère que vous comprenez. La perspective du TST, qu'est-ce ? Pourquoi ? La perspective du POS, le comment ? Et vous voyez ça dans l'Écriture, à l'Annonciation. Marie demande comment cela peut se faire ? Elle ne dit pas pourquoi. Elle dit comment ça ? Pourquoi ? Parce qu'elle avait fait vœu de virginité. Donc, ça semble impossible de voir un fils. Alors, comment ? Deuxième question. Pouvez-vous nous préciser quel est le fondement de saint Thomas ? Dans la prima secundae, question 109, article 6, car il est nécessaire, étant donné que tout agent agit pour une fin, que toute cause oriente ses effets vers sa fin à elle. Où Aristote entraîne-t-il ? Nulle part. C'est du Saint Thomas, c'est pas de l'Aristote. Aristote traite de la finalité. Alors, ce que saint Thomas donne là, c'est une conséquence de la finalité. Donc c'est le pos de la finalité. La finalité, c'est le pourquoi. Et car il est nécessaire, voyez, il est nécessaire. On n'est pas, on est dans l'ordre du comment. Étant donné que tout agent agit pour une fin, ah voilà le principe. Tout agent agit pour une fin. Que toute cause oriente ses effets vers sa fin à elle. Donc, c'est la conséquence directe que, étant donné que tout agent agit pour une fin, ça c'est un principe. Tout agent agit pour une fin, c'est le principe de la finalité. Alors, la conséquence que toute cause oriente ses effets vers une fin à elle. Donc c'est la conséquence. Et la conséquence, c'est pas le pourquoi. La conséquence, elle est du côté du pos. Comment se fait-il, alors je reprends en sens inverse, comment se fait-il que les effets sont orientés vers une fin? Parce que la cause finale oriente tout vers la fin. Dans ma vie, prenez, il y a un certain ordre qui s'impose dans votre vie. Depuis le matin jusqu'au soir, c'est bien organisé. L'ordre qui existe dans vos journées, il y a un ordre. Cet ordre, c'est une conséquence de la finalité. Parce que vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. Et pour tout faire pour la gloire de Dieu, il faut que tout soit bien ordonné. Quand ce n'est pas bien ordonné, quand il y a un défaut à l'ordre, vous êtes obligé de reprendre. Bon, les grèves vous obligent, les grèves de chemin de fer, vous obligent de tout repenser. À la place d'arriver hier matin, j'arrive à midi. Pourquoi ? Parce que celui qui avait pris les renseignements n'avait pas pris les renseignements avec assez de précision que le train de 8 heures pouvait s'arrêter au Creusot. Et on ne m'avait pas dit ça. Alors, train de 8 heures pouvait s'arrêter au Creusot. J'avais calculé, donc, Lyon, et le temps de venir du Lyon, ça fait gagner une demi-heure. Ça oblige quelqu'un de me chercher à Lyon de revenir tout à fait inutile. Ça lui fait perdre toute la journée. Il vaut beaucoup mieux dans ce cas-là, pour une heure, revenir l'après-midi seulement. Bon, vous calculez, tout simplement. Ou ce sera le moins gênant, ça gênera moins, parce qu'il y a quelque chose qui empêche de suivre le règlement normal. L'ordre provient comme conséquence d'une finalité. Il faut que nous soyons des gens ordonnés. Et donc on refuge à la finalité constamment. Donc il faut arriver en mécanisme intellectuel à distinguer très nettement le ti-esti. Pourquoi ? Ti-esti. Je le dis en grec parce que j'ai ça fait appel à Aristote. Et le pos. Platon ne cherche que le ti-esti, jamais le pos. C'est ça l'idéalisme. Ah, j'ai réfléchi, c'est comme ça qu'on doit faire. Oui, mais comment le faites-vous? L'idéalisme, ça lui est égal. Or, la scolastique ne cherche plus le comment, parce qu'elle s'appuyait sur la théologie, et la théologie nous donnait le comment. Alors, on ne cherchait plus le comment. Et ce qui fait que la scolastique aboutissait à des nécessités qui n'étaient pas de vraies nécessités, qui étaient tout simplement le comment qui devait changer. Alors, vous comprenez, quand nous cherchons la personne, elle n'est pas un principe. Donc, ce n'est pas par le tiesti. La nature est un principe, mais pas la personne. J'ai une nature humaine, donc j'ai une âme et un corps. Bon, l'âme, principe de vie. Mon corps, il est un principe matériel. Je suis bien obligé. C'est à cause du corps que constamment le pose, le comment s'impose avec nécessité. C'est sûr. C'est pour ça que le positivisme qui cherche que le comment, très facilement devient matérialiste. La personne, qu'est-ce que c'est? Il faut que je réfléchisse sur ce que c'est. Est-ce que la personne est un principe? Non. Elle est un pot, c'est un comment. Un acte personnel. Qu'est-ce que c'est qu'un acte personnel? Il faut toujours avoir ça dans l'idée. Autrement, ce serait de l'abstrait. Ça ne dirait pas un acte personnel. Il a une personnalité très marquée. Vous dites ça couramment, hein, constamment, sans avoir fait la philosophie de la personne. Et vous dites ça en réfléchissant sur... Je vous demanderai, hein, je ne le fais pas, mais je demanderai pendant 10 minutes, vous allez me dire, dans votre... noviciat, dans votre groupe, communauté ici, réfléchissez bien, vous allez me dire, quels sont les frères qui ont une vraie personnalité? Quels sont les frères? Faites ça spontanément, sans faire de philosophie. Et vous dire, ah, ça c'est la psychologie. Non, c'est pas la psychologie. La personne dépasse la psychologie. La psychologie regarde l'agencement de certaines activités, mais ne regarde pas la personne. Alors, je dis, la personne n'est pas un principe, mais elle est le comment de la volonté, de l'intelligence, de vos sens externes, de votre prudence. Elle applique tout ça. Alors, j'analyse, puisqu'il faut bien comprendre ce que c'est que la personnalité, un acte personnel. J'ai fait aujourd'hui un acte personnel. J'avais autour de moi des quantités de chiens qui hurlaient énormément et qui voulaient à tout prix que je fasse telle chose. Eh bien non, je n'ai pas fait ça. J'ai fait ce qui me semblait devoir être fait. Constamment, c'est ce qui arrive pour vous. On en a toujours ceux qui hurlent le plus. Ce n'est pas ceux-là qui permettront de voir exactement ce que c'est qu'un acte personnel. Il y a toujours, dans les communautés, il y a toujours ceux qui crient fort et ceux qui donnent des conseils silencieux. Il faut, dans la communauté, il faut nécessairement des gens qui crient plus fort. Mais je juge, quand ils crient fort, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Là, un acte personnel dépend de votre prudence. Vous allez réfléchir, est-ce que je peux faire ça? Non, vu les circonstances, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je suis capable, mon intelligence, ma volonté, tout ça intervient dans la personne. Et c'est l'ensemble de cela, l'harmonie qui existe dans ça, qui fait que c'est telle personne. On distinguera encore une personnalité artistique. Tel frère, c'est un artiste. Personnalité artistique. Ou telle sœur, c'est une artiste. Au point de vue artistique, il est très imprudent. Et on peut être très prudent et être complètement incompétent au point de vue artistique. Or, il y a une personnalité artistique, on ne peut pas nier. On a tous rencontré dans notre vie, du moins j'espère, des artistes. J'avais la possibilité de rencontrer Rouault. Je connaissais ses petites nièces très bien. Et je leur avais dit, ça m'intéresserait beaucoup de rencontrer Rouault chez lui. Un petit peu ce type particulier. J'aime ce qu'il fait. Et j'aimerais lui parler de moi. Alors elle m'a dit, oh, c'est très simple, on va vous inviter. Et puis peut-être que l'oncle sera là, on lui dira. Alors première fois, Rouault me dit, oh, j'aime pas du tout les curés. Merci. Oh, je ne suis pas un curé, monsieur, mon cher. Je suis un religieux. C'est peut-être différent. Hein. Alors, oui, je suis comme ça, c'est tout à fait l'artiste qui était furieux qu'on l'embête. Parce qu'on n'entrait pas là où Rouault travaillait. Son atelier était sacré. J'aimerais vous voir peindre un peu, j'aimerais voir. Ah non, ça, personne n'entre. Et c'était comme ça, Rouault, tout le temps. Il était breton, n'est-ce pas ? Il était très correct, très net, mais en même temps merveilleux. Au bout de 10 minutes de conversation, il a vu que je venais pas, parce qu'il n'est pas les curés. Parce que les curés venaient l'interroger pour voir, oh, un peintre, oh, qu'est-ce que c'est? Alors ça l'empoisonnait de voir ça. Et puis quand ils voyaient que c'est quelqu'un qu'on voulait simplement pour lui dire bonjour et puis voir un petit peu ce qu'il faisait. Alors c'est là où il m'a raconté son histoire de Rouault, vous savez. Rouault peignait et n'arrivait pas à vendre ses tableaux. Alors, il y en avait 300 qui n'étaient pas vendus. Il fallait de la place. Alors, qu'est-ce qu'il a fait un jour? Il a brûlé ses 300 tableaux. Et il m'a raconté ça. Ben, voulez-vous, je ne sais pas, je fais ça pour qu'il puisse... Moi, pour gagner ma vie aussi, et puis ça m'intéressait. Et puis, hein, puisque ces tableaux n'intéressaient personne, je les ai brûlés. J'avais besoin d'avoir de la place. Vous avez un type comme ça. C'est une personnalité spéciale. Alors, on essaie. Si on veut philosophiquement voir qu'est-ce que c'est que cette personnalité, ça, on verra au point de vue de l'art, parce qu'il y a vraiment un type de personne artistique. C'est un type de personne, ça. Comme il y a un type type de chercheur scientifique. Et c'est pas l'homme. L'homme, c'est... Est-ce qu'il y a la personnalité qui est l'homme ? La seule personnalité homme, alors je le dis en tant que chrétien, ce serait Jésus. L'homme parfait. Nous, c'est particulier. Il y a la personnalité de l'artisan. Il y a la personnalité de l'homme prudent. On voit très bien ça. Chez les supérieurs, on fait toujours ce petit jugement. Ah, c'est supérieur. Il est trop prudent. Je n'arriverai jamais à lui demander telle chose, de faire telle chose. Ah non, il faut faire un saut dans le vide. Faire un saut dans le vide, ah, c'est pas commode. Il faut être suspendu pour faire un saut dans le vide, pour que l'atterrissage ne soit pas trop dur. Mais il faut avoir un câble. Alors vous pouvez faire ça si vous avez une contemplation suffisante. Mais s'il n'y a pas, vous n'êtes pas tenu par le haut, cette contemplation suffisante, c'est pour moi. Alors vous voyez, chercher ce qu'est la personne, c'est complexe, c'est pas simple. C'est ce qu'il faut dire. Et on cherche les différents éléments qui font partie de la personne et qui se traduisent dans des actes personnels. Un acte personnel humain, c'est les seules personnes que je connais. La personne angélique, je ne la connais pas. Et je sais ce qu'on dit qui fait l'ange fait la bête. Bon, alors ça, c'est ça. On connaît ce vieil adage. Pourquoi ce qui fait l'ange fait la bête ? Ah, parce que, justement, l'ange, il n'y a pas de corps. Alors, quand on pense uniquement à l'esprit sans le corps, on risque de faire des bêtises. Ben, l'esprit, on pourrait sauter. On peut. L'esprit, ça ne gêne pas de sauter dehors. Mais il y a le corps. Donc je suis arrêté par mon corps. Mon corps fait partie de ma personne. Je ne peux pas abstraire le corps de la personne. Ça fait partie du POS. Alors, ce que nous cherchons ensemble, c'est l'analyse de ce POS, de ce comment. Et je vois que ce comment implique en premier lieu l'autonomie. Pas une autonomie parfaite, une certaine autonomie. Parce que l'autonomie parfaite, on ne la trouvera jamais. Il n'y a que Dieu qui est absolument autonome. Donc la personne de Dieu, elle est unique. Dieu peut faire ce qu'il veut. Ah, dire, ah non, il ne fait pas ce qu'il veut, il fait toujours une œuvre de sagesse. Ah oui, mais c'est justement parce que Dieu est sage. Donc il fait ce qu'il veut. Mais il le fait comme sage. Il le fait comme Dieu. Et donc, nécessairement, vous ne direz pas que ce n'est pas une limite. Est-ce que c'est une limite d'être Dieu ? Non, ce n'est pas une limite. Dieu n'est pas limité, il est Dieu. Il y a une personne tout à fait spéciale. C'est pas auprès de lui, c'est pas en contemplant Dieu que je vais savoir ce que c'est que la personne. Sauf quand la foi me dit que Dieu, en lui, il y a trois personnes. Ah, vous voyez ? Trois personnes divines dans une nature divine. Voilà comment, tout de suite, le dogme de la très sainte Trinité se présente. Trois personnes divines et un seul Dieu. Et quand vous avez à côté de vous des musulmans, un seul Dieu, et ils luttent contre les trois personnes divines. Et il faut leur montrer que les trois personnes divines ne suppriment pas la nature unique de Dieu. Et donc, la nature unique de Dieu, nous la disons même plus profondément que les musulmans, puisque nous disons que la nature de Dieu peut impliquer trois personnes. C'est un mystère, évidemment. J'ai aucune expérience de ça. Et je cherche ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la personne ? Alors, saint Thomas reprend toujours la définition de Boès, parce qu'Aristote n'a pas traité la personne. Pour Aristote, c'est le pos. Il n'a pas traité. Alors, je dois regarder. Qu'est-ce que c'est que la personne ? Pourquoi je dois faire ça ? Parce que je vois autour de moi, aujourd'hui, tous les gens qui pensent une philosophie kantienne, une philosophie cartésienne, ils pensent à personne. C'est ce que je vous ai dit tout de suite. Quand je regarde la philosophie européenne, je vois qu'il y a un premier mouvement de la philosophie européenne vers la nature. Ça va jusqu'à Thomas d'Aquin. Et un second mouvement de la recherche, qui est la recherche de la personne. Je suis. Ceci est, je suis. Ceci est conduit à connaître la nature des choses, ce que c'est, et je suis conduit à connaître ma personne. Bon, je vois très bien que la recherche philosophique a changé complètement. Mais est-ce que la recherche philosophique de la personne supprime-t-elle la recherche philosophique de la nature ? Pour Thomas d'Aquin, non. Pour Descartes, oui. Alors, c'est important de voir ça. Qu'au fond, ce changement, cette perspective différente de la philosophie, a supprimé la première. Et alors, on est tombé dans un personnalisme absolu. Comme si la personne était un principe. Mais non, mon principe, c'est mon âme, c'est ma substance. Ma finalité, c'est autre chose. Ma personne fait que j'ai cette autonomie d'une façon particulière par mon âme. Alors, je suis obligé de dire: la première dimension de la personne, c'est l'autonomie substantielle. C'est une autonomie qui s'enracine dans la substance. La vache n'a pas de personne. Pourquoi ? Vous n'avez jamais arrivé, si vous présentez une belle vache à un brave fermier, dans lequel, vous savez, cette vache, elle a une personnalité extraordinaire. Alors il vous regardera, tiens, la vache n'a pas de personnalité, l'animal ne l'a pas, c'est propre à l'homme, c'est la substance âme, c'est propre à l'homme. Donc le premier élément de la personne, c'est l'autonomie, l'autonomie substantielle. Et vous voyez, le psychologue ne regardera jamais ça. Le degré d'autonomie, il verra, vous manquez d'autonomie. Il dira ça. Vous êtes encore un petit mouton. Vous êtes encore dépendant complètement de votre mère. Et la dépendance de votre mère fait que vous agissez toujours en référence avec elle, sans le savoir. Vous manquez d'autonomie, c'est vrai. Il manque d'autonomie parce qu'il ne sait pas ce que c'est que son âme. Son âme, c'est un principe qui m'est donné et qui fait que je suis. Si je dis je suis, ça implique quelque chose qui radicalement ne dépend pas d'un autre. Quand vous dites je suis à côté de votre voisin, ça veut dire que vous avez en vous un principe qui est autonome. Donc l'âme, ma subsistance. Et je dis que mon âme subit et me donne cette possibilité de poser des actes indépendamment des autres. J'ai en moi une source d'activité qui serait propre à moi. J'ai une substance, j'ai une âme. Premier caractère, et qui est très important, et qu'on doit affirmer avec beaucoup de force, il y a une indépendance radicale. Bon. Qu'il y ait beaucoup de personnes autour de moi qui n'arrivent pas à cette indépendance, ça se peut. Et c'est très vrai. Au fond, aujourd'hui, on le dira couramment, il manque de vraies personnalités. On a l'impression que c'est extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui a une autonomie suffisante pour voir ce qu'il doit faire. Donc, la première recherche de la personne, et elle est très, très, très métaphysique celle-là. Et si je ne connais pas ce que c'est que la substance, je ne connais pas ce que c'est que l'âme. Et donc je ne connais pas le point de vue élémentaire et premier de la personne. Supprimer l'âme qui se fait maintenant, on ne veut plus entendre parler de l'âme. Supprimer de l'âme, c'est, vous voyez, c'est supprimer la personne. On n'aura plus que des individus. Plus ou moins bien remonté. Mais il n'y aura plus d'individus. Il n'y aura plus de personnes. Si ça continue comme c'est actuellement, dans 5 ans, 10 ans, la personne existera, parce qu'on ne supprimera pas l'âme, mais elle sera inhibée. Psychologiquement, le psychologue aura de plus en plus d'importance parce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui ne sont que des individus et qui n'ont plus aucune personnalité et qui sont entièrement conditionnés par leur milieu. Et c'est leur milieu qui les expliquera. Et voyez, la tendance, de voir justement que c'est le milieu auquel on a été qui explique tout. Mais non, il y aura toujours dans l'homme quelque chose qui est indépendant de son milieu. Il est autonome par son âme. Et son âme est indépendante du milieu. Le milieu n'explique pas tout. Si on a affaire à une personne, si on a affaire à un individu, ah, ça c'est autre chose. Il est complètement conditionné, complètement dépendant. C'est ça que je veux expliquer en disant que la personne a premièrement l'autonomie. Deuxièmement, elle a l'intelligence. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui veulent être autonomes et qui ne sont pas intelligents. Il faut voir en effet que l'autonomie dépend énormément d'une conquête de l'autonomie. L'âme, c'est peut-être la chose qu'on endort le plus facilement. Elle est chloroformée. Aujourd'hui, la vie qu'on mène chloroforme l'âme. La plupart des personnes ne s'occupent plus. Non, je n'ai pas d'âme. Je ne la vois pas. Quand vous avez affaire à quelqu'un qu'il faut éduquer, vous comprenez que son autonomie, elle va l'avoir en premier lieu par son intelligence. C'est l'intelligence qui conditionne de la manière la plus profonde. Elle fait plus que conditionner. Elle engendre. Elle, au point de départ, une intelligence, pas n'importe laquelle. Alors il faudra distinguer l'intelligence qui est un élément nécessaire pour la personne. La personne humaine est intelligente, comme personne. Je dirais que la première chose que l'intelligence fait, c'est de nous donner cette autonomie. Quand l'intelligence ne peut pas me donner cette autonomie, mon intelligence n'est pas une véritable intelligence. C'est une intelligence qui est conditionnée. Vous voyez, la grosse question, une question d'aujourd'hui, on veut éduquer les enfants uniquement par les pratiques des mathématiques. C'est ce qu'on veut. Est-ce que la connaissance mathématique me permet d'avoir cette autonomie, est un élément de la personne? Ça, on verra ça la fois prochaine. C'est très important.